Sonobook présente. L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. De Charles Darwin. Lu par Victor Vestia. Introduction. Aussi longtemps que l'homme et les autres animaux seront considérés comme des créations indépendantes, il est certain qu'un obstacle invincible paralysera les efforts de notre curiosité naturelle pour poursuivre, aussi loin que possible, la recherche des causes de l'expression. Par cette doctrine, tout pourrait et peut également être expliqué, et son influence a été aussi funeste relativement à l'expression que pour toutes les autres branches de l'histoire naturelle. Certaines expressions de l'espèce humaine, les cheveux qui se hérissent sous l'influence d'une terreur extrême, les dents qui se découvrent dans l'emportement de la rage, sont presque inexplicables si l'on n'admet pas que l'homme a vécu autrefois dans une condition très inférieure et voisine de la bestialité. La communauté de certaines expressions, dans des espèces distinctes, quoique voisine. Par exemple, les mouvements des mêmes muscles de la face pendant le rire chez l'homme et chez divers singes se comprend un peu mieux si l'on croit à la descendance de ces espèces d'un ancêtre commun. Celui qui admet, d'une manière générale, le développement graduel de l'organisation et des habitudes chez tous les animaux verra toute la question de l'expression s'éclairer d'un jour nouveau et intéressant. L'étude de l'expression est difficile, vu l'extrême délicatesse et la fugacité des mouvements. On peut parfois percevoir très nettement un changement dans une physionomie, sans pouvoir spécifier en quoi ce changement consiste. Quand nous sommes témoins d'une émotion profonde, notre sympathie est si fortement excitée que l'observation rigoureuse est oubliée ou rendue presque impossible. Je possède plusieurs preuves curieuses de ce fait. Notre imagination est une nouvelle source d'erreurs encore plus grave. Si nous nous attendons dans une situation donnée à voir une certaine expression, nous nous imaginons sans peine qu'elle existe. Le docteur Duchesne, malgré sa grande expérience, s'est longtemps figuré, dit-il, que plusieurs muscles se contractaient sous l'empire de certaines émotions, tandis qu'il s'est convaincu plus tard que le mouvement était borné à un seul muscle. Voici les moyens d'étude que j'ai adoptés avec le plus de profit pour avoir un critère aussi sûr que possible et pour vérifier, sans tenir compte de l'opinion reçue, jusqu'à quel point les divers changements des traits et des gestes traduisent réellement certains états de l'esprit. Premièrement, j'ai observé les enfants, car ils expriment plusieurs émotions, suivant la remarque de Sir Charles Bell, avec une énergie extraordinaire. En effet, à mesure que nous avançons en âge, quelques-unes de nos expressions ne proviennent plus de la source pure et sans mélange d'où elles jaillissaient pendant l'enfance. Deuxièmement, il m'a paru qu'il serait bon d'étudier les malades mentaux, car ils sont soumis aux passions les plus violentes et leur donnent un libre cours. N'ayant pas l'occasion de faire cette étude par moi-même, je m'adressai au docteur Maudsley. Il me présenta au docteur J. Crichton Brown, qui est chargé d'un immense asile près de Wakefield, et qui, comme je le vis, s'était déjà occupé de la question. Cet excellent observateur, avec une bonté infatigable, m'a envoyé des notes et des descriptions étendues, avec des aperçus précieux sur plusieurs points, et je ne saurais estimer assez haut le prix de son concours. Je suis aussi redevable de faits intéressants sur deux ou trois points à Patrick Nicol du Sussex Lunatic Asylum. Troisièmement, le docteur Duchesne, comme nous l'avons déjà vu, a galvanisé les muscles de la face chez un vieillard dont la peau était peu sensible et reproduit ainsi diverses expressions qui ont été photographiées à une grande échelle. J'ai eu la bonne fortune de pouvoir montrer plusieurs des meilleures épreuves, sans un mot d'explication, à une vingtaine de personnes instruites, d'âges divers et des deux sexes. Je leur demandais à chaque fois par quelle émotion ou quelle sensation elles supposaient que le vieillard fût animé, et je recueillais leurs réponses dans les propres termes dont elles se servaient. Parmi ces expressions, plusieurs furent immédiatement reconnues de presque tout le monde, bien que chacun ne les décrivît pas exactement par les mêmes mots. Ces expressions peuvent, me semble-t-il, être tenues pour fidèles, et nous les décrirons plus loin. Quelques-unes, au contraire, furent l'objet de jugements très différents. Cet examen me fut utile à un autre point de vue, en me démontrant la facilité avec laquelle nous pouvons nous laisser égarer par notre propre imagination. En effet, lorsque je regardais pour la première fois les photographies du docteur Duchesne, en lisant le texte simultanément, et en m'instruisant ainsi de l'intention de l'auteur, je fus, à de rares exceptions près, constamment frappé de leur merveilleuse vérité. Et cependant, si je les avais examinées sans aucune explication, j'aurais été sans doute aussi embarrassé dans certains cas que l'ont été les personnes que j'ai consultées. Quatrièmement, j'avais espéré trouver un puissant secours chez les grands maîtres en peinture et en sculpture, qui sont les observateurs si attentifs. En conséquence, j'ai étudié les photographies et les gravures de beaucoup d'œuvres bien connues. Mais, sauf quelques exceptions, je n'y ai trouvé aucun profit. La raison en est sans doute que dans les œuvres d'art, la beauté est le but principal. Or, la violente contraction des muscles de la face est incompatible avec la beauté. L'idée de la composition est généralement traduite avec une vigueur et une vérité merveilleuse par des accessoires habilement disposés. Cinquièmement, il m'a semblé de la plus haute importance de vérifier si les mêmes expressions et les mêmes gestes, ainsi qu'on l'a souvent assuré sans preuve suffisante, existent chez toutes les races humaines, spécialement chez celles qui ont eu peu de rapport avec les Européens. Si les mêmes mouvements des traits ou du corps expriment les mêmes émotions dans diverses races humaines distinctes, on peut en conclure avec beaucoup de probabilité que ces expressions sont les véritables, c'est-à-dire sont innées ou instinctives. Des expressions ou des gestes conventionnels acquis par l'individu au début de sa vie seraient probablement différents chez les diverses races, comme leur langage. En conséquence, au commencement de l'année 1867, je fis imprimer et circuler une série de questions en demandant qu'on voulût bien y répondre par des observations directes et non point par des souvenirs.